CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Inextenso Finance.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte X, CEO Radio-du-bas. TV à mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inextenso Finance. Bonjour Marc.
Bonjour Alain.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Eric Apote, CEO de Peugeot Motocycle. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors racontez-nous, vous êtes né en 1965, diplômé de l'école des mines, d'HEC, de l'ICAD à Madrid. Un souvenir de votre premier job. Vous étiez déjà chez Peugeot Citroën au tout début ?
Oui, j'ai commencé chez Peugeot Citroën.
Vous faisiez quoi au tout début ?
J'ai commencé au commerce en Espagne, à Madrid. C'est pour ça que, voilà.
Que vous aimez Madrid.
Je suis resté madrilène.
Bon, alors racontez, on va faire un petit tour du monde avec vous. Un souvenir par pays. Si je vous dis la Malaisie, par exemple, vous pensez à quoi ?
À mon dernier poste avant de venir à Kuala Lumpur, magnifique ville, ouais. Magnifique job, puisque je gérais 18 pays de l'ASEAN. Depuis Kuala Lumpur, je gérais les opérations. Et donc, j'étais à peu près tous les jours dans un avion au Vietnam, en Indonésie, aux Philippines, etc., etc.
L'Inde, alors, l'Inde, c'était un peu avant, ça ?
L'Inde, c'était juste avant, oui. En fait, j'ai passé 12 ans de ma vie en Asie.
Ouais.
Entre la Chine, l'Inde et l'ASEAN, tout l'ASEAN. Et donc l'Inde, oui, j'y ai passé 4 ans.
4 ans, quoi. C'est un pays fascinant aussi. Hein.
C'est fascinant, mais c'est très difficile.
De bosser avec un Indien ?
Non, les conditions, le climat. Et puis j'avais tout à faire. Enfin, j'ai monté PSA pour l'Inde. Donc tout l'écosystème, 2 usines, un centre de R&D, les achats. Et puis le lancement d'une voiture pour les pays émergents. Donc voilà, un boulot de fou. En plus, c'était en plein Covid.
Ah ben chouette alors.
Et voilà,
en plus, donc, il n'y a pas de Covid en Inde.
C'était la totale, non.
La Chine, vous avez bossé également en
Oui,
Chine.
J'ai bossé 7 ans, oui, ouais. Effectivement.
Vous étiez basé à Shanghai ou
d'abord à Wuhan, à Shanghai, et puis après sur la frontière de Hong Kong.
Quel regard portez sur l'économie chinoise hein? Ça tousse un peu en ce moment,
ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète un peu, oui, bien sûr, comme tout le monde, mais bon, je suis confiant dans leur capacité à résoudre les problèmes, aller de l'avant. Non, c'est une formidable machine de guerre.
Vous avez également travaillé pour DS Automobile ?
Oui, je suis le cofondateur de DS Automobile.
D'abord, racontez-nous un peu les coulisses de cette création, parce que c'est génial. On sort du chapeau une voiture mythique ?
Oui.
Et alors ?
Et on en a fait la marque DS Automobile, qui aujourd'hui vend plus de voitures dans le monde qu'Alfa Romeo, qui a pourtant 120 ans. Donc, un très gros succès, je suis extrêmement fier.
Ouais, c'est pas gagné, parce que le prisme, on va dire, franco-français, il n'est pas forcément luxe, hein, et il est neutre, ou au mieux, ou
oui, en fait, depuis la disparition de Facel Vega, il n'y avait plus de marque française dans ce monde-là, alors que les Allemands font évidemment des gros scores sur Mercedes, sur Audi, sur BMW, évidemment. Et donc, c'est un pari, j'étais très, très fier de prendre ce pari, de prendre ce challenge à l'époque, proposé par le PDG de l'époque du groupe PSA, Philippe Arin, et puis de fil en aiguille avec une équipe de une Dream Team. Comme on dit, on a créé petit à petit cette marque, c'était fabuleux.
Et ça vous agace, le snobisme à la française, de dire c'est mieux de rouler en allemande, ça fait plus chic? Ils sont agaçants, ces gens qui pensent comme ça, non?
Ça ne m'agace même plus, en fait. On a démontré le contraire, nous, en train de continuer à démontrer le contraire, donc voilà, c'est...
Voilà, il y a des gens comme ça, pourquoi pas, quoi. Voilà.
Non, mais du fait de l'absence de vrais premium français pendant des années, c'était un peu normal qu'il y
ait une place qui a été prise par d'autres marques et d'autres pays, quoi. Oui. Votre job aujourd'hui, c'est quoi? Comment on peut le définir, là?
C'était je suis Global CEO de l'entreprise, qui est une entreprise, alors elle est... peut-être assez mal connu, on connaît surtout les automobiles Peugeot, mais Peugeot Motocycle, c'est une entreprise qui est devenue extrêmement mondialisée, en fait, avec trois usines en Chine, une usine au Vietnam, une usine en Inde, et évidemment notre usine historique à Beaulieu-Mandeur, hein, c'est là où a été créée la moto, Parce que l'inventeur de la moto, on ne le sait pas souvent, mais c'est Armand Peugeot.
C'est Armand Peugeot qui a inventé la moto, ah oui.
Absolument, en 1898, à Beaulieu-Mondeur, dans le Doubs. Donc c'est quelque chose qui est historique, 125 ans d'histoire. Donc on a également 300 de R&D aujourd'hui en Inde, en Chine et puis également en France, à Beaulieu-Mondeur. Puis on est dans 70 pays, 3000 points de vente, 3000 concessions à peu près. Donc oui, c'est assez...
C'est un marché dynamique aujourd'hui ?
Le marché de la moto et du deux-roues, en fait, s'est transféré vers l'Asie. On ne le sait peut-être pas assez.
En termes de consommateurs, vous voulez dire ?
En termes de clients, en termes de marché. Aujourd'hui, le marché du deux-roues, en général, en Europe de l'Ouest, c'est 1,5 million. Quand le marché du deux-roues pour l'Asie, donc Chine, ASEAN et Inde essentiellement, c'est 60 millions. Oui, donc évidemment, on a beau être le meilleur du monde en France, et en France par exemple, nous, on a un modèle qui est le deux roues motorisé le plus vendu en France depuis 10 ans, c'est le Peugeot Kisby. Voilà, quand il y a 60
c'est marginal
millions,
versus
ça devient marginal. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est en plein processus de transformation, de relance, avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire, Mutares, une holding industrielle allemande de 30 000 personnes spécialisée dans l'automobile, la mobilité et la technologie. Et donc, on a ce plan de relance autour de Peugeot Motocycle et autour aussi du deuxième actionnaire qui sont les Indiens de Mahindra.
Marc.
Oui, je reviens sur cette histoire industrielle de presque deux siècles.
Enfin, c'est ça, 210 ans.
Deux siècles. Quels sont les on parle d'électricité, on parle d'émissions de CO2, oui. On parle de mobilité urbaine, on parle de sécurité. Quels sont les enjeux? Alors, effectivement, à l'échelle européenne et à l'échelle asiatique, qui sont des échelles différentes, vous venez de le dire, comment vous appréhendez ça dans la vision stratégique de la marque?
Donc là, depuis la reprise par Mutares, enfin, il faut savoir que l'entreprise a été absolument florissante au milieu jusqu'à la fin des années 80, puisque à Beaulieu-Mondeur, on avait 6000 personnes qui produisaient, vous vous rappelez tous, qui n'en a pas eu le Peugeot 103, et on a produit quand même à Mondeur 4 millions de Peugeot 103. Donc, à l'époque, évidemment, les marchés étaient ce qu'ils étaient, et puis la concentration, le barycentre était plus sur l'Europe que sur l'Asie. Donc, aujourd'hui, notre plan, c'est de nous développer, évidemment, de rester fort en France et en Europe, de nous développer en Asie, en particulier en ASEAN, et c'est une de mes missions principales. En Chine, on est déjà et on est fortement présent puisque c'est notre premier marché. Aujourd'hui, le plus gros concessionnaire au monde de Peugeot Motocycle, c'est le concessionnaire de Pékin.
Combien d'exemplaires par an ils vendent?
Il vend 3000 à lui tout seul.
3000
concessionnaire
seul.
De.
Ouais, c'est beau quand même.
Le concessionnaire de Pékin, rien qu'à Pékin. Donc voilà, on avance fort. On avance sur l'électrification. Parce que l'électrification, c'est
l'avenir, quoi.
C'est l'avenir aussi bien en Europe qu'en Asie. Donc là, on vient de lancer un nouveau, modèle, le E-Street Zone. On lance plusieurs modèles dès cette année. Et puis, peut-être vous savez, mais en 1996, le premier scooter électrique de l'histoire, c'était déjà un Peugeot, c'était le Scootelec. Alors, comme on était trop tôt, et comme souvent on est trop tôt, on est arrivé et le Scootelec n'a pas eu le succès escompté. Malgré tout, on a continué, on a persisté. Et donc là, on vient aussi de rajouter à notre portfolio de marques une troisième marque. Je vous parlais de la deuxième aussi. Donc une troisième marque qui s'appelle DAB Motors, que l'on a racheté. Alors c'est une start-up. C'est une start-up qui commence. On va, c'est des motos... des motos de luxe électriques pour faire la compétition avec Zero Motorcycle, par exemple. Et donc, on a, dans cette vieille dame de 125 ans, on vient d'intégrer une start-up.
Ouais, c'est assez génial, quoi. Marc
je dis à mon fils, il travaille dans une start-up à San Francisco, dans la Silicon Valley. Ils font des avions et des hélicoptères électriques. Et je dis à mon fils que moi, qui ai 35 ans de plus que lui, je travaille aussi dans une start-up.
Absolument.
C'est quand même formidable.
Marc ?
Oui, alors je rappelle effectivement un peu l'histoire, puisqu'entre 2014 et 2019, donc le groupe indien Mahindra est monté au capital ou a fait l'acquisition.
Oui, l'acquisition totale.
Au début, c'était de Peugeot Montorsier.
Peugeot plus Mahindra, et après c'était...
L'arrivée de Mutares en 2022, c'est quoi ? C'est... un peu, non pas un échec, mais la nécessité pour Mahindra de trouver un relais pour le financement de la croissance.
C'est d'une part cela, et d'autre part, les Indiens ont fini par accepter qu'ils n'avaient pas compris le marché français, le marché européen, et qu'ils avaient besoin de partenaires européens. Et donc, Mutares, qui est une grosse entreprise spécialisée dans les relances et les transformations, est arrivée avec une quinzaine de spécialistes de la logistique, de spécialistes du commerce, etc., pour piloter ce plan de relance et de transformation que je pilote maintenant moi-même.
On parle beaucoup d'invasion des voitures électriques chinoises. Mmh. Est-ce qu'on a le même... Le même sujet lorsqu'on parle de deux roues.
Alors pour l'instant, il y a un décalage, c'est-à-dire que dans le domaine des voitures, l'électrification est arrivée beaucoup plus vite en fait et montée en puissance beaucoup plus fort de par aussi les réglementations, etc. Et au contraire, en Europe. Il y a un décalage. Donc, nous, on est aujourd'hui parmi les précurseurs. On l'était en 1996, mais on ne peut pas parler non de Chinois qui dominent le marché aujourd'hui.
Donc, avec Mutares, vous l'avez dit, vous avez fait l'acquisition de DAB Motor l'année dernière.
Oui.
Donc, petite société. Est-ce que c'est le prémisse d'autres sujets de croissance externe? Et pourquoi pas en Asie, où j'imagine sont vos premiers concurrents?
Alors, je disais, on a trois marques aujourd'hui dans le portfolio, puisqu'on a aussi récupéré la marque BSA. BSA, qui est une marque iconique, c'était une marque qui date de 1903, qui a été le plus grand constructeur de motos dans les années 50 et 60, avant de disparaître face aux assauts de Honda et Yamaha. Et donc, on a aussi, en ce moment, donc c'est une marque de machines rétro, hein, clairement, qui vise la nostalgie, les années 50, les années 60,
collector,
le vintage.
Un petit peu d'argent, un petit peu de blanc.
Et donc, c'est quelque chose qui nous attire. Alors là, pas d'électricité du tout, bien entendu, mais c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup. Sur l'Asie, oui, on est évidemment...
Attentif.
Attentif. On se développe par la vente, la commercialisation, par des partenariats industriels. Par exemple, on a un gros partenariat à Saigon, à Ho Chi Minh, avec le groupe TACO. Et évidemment, on continue à viser 60 millions contre 1,5 million.
Oui, ça ne fait pas quoi. Eric, vous avez, paraît-il, pas mal de voitures et de motos, hein, 10 Oula. Et 6.
Qui c'est qui a écrit ça?
Vous avez combien?
Oui, c'est ce que j'ai.
Et votre préféré, votre moto préférée, c'est laquelle?
Oula, il y en a tellement, mais je dirais une Yamaha XT500.
Bon, écoutez, 78. Foot, vous supportez non pas le Barça, mais Madrid. Hein, vous avez été marqué quand même. Hein.
Si j'avais su, je ne serais pas venu vous.
Non, non, il n'y a pas de problème, parler. C'est une très belle équipe. Quoi. Ah, vous êtes fan de Madrid.
Hein. Oui, bien sûr.
Il faut qu'il récupère Mbappé ou pas?
Ah, je préférerais que non.
Ah, oui. Et alors, pour terminer, vous avez aussi une casquette géniale. Vous avez du vin dans la famille, dans le Languedoc. Oui. Ça, vous êtes formidable, quand même, Eric. Hein. Racontez-nous, c'est où exactement?
C'est à Uzès.
À Uzès, hein. Et qui s'en occupe?
Bah, c'est ma famille, ouais. C'est ma cousine, c'est voilà, un peu tout le monde. Mais oui, c'est une tradition de famille depuis.
Est-ce qu'il est quand même bon, votre vin?
Oh, ben, j'espère.
Absolument. Vous donnez, il a une marque, peut-être un nom?
Non.
Il va directement à la coopérative, quoi, c'est ça. Merci beaucoup, Eric. Et puis alors, bravo pour l'ensemble de vos projets. Merci également à vous, Marc. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toutes nos actualités sur les comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, ça sera à 14h précise, pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Inextenso Finance.